BFM Business présente Recherche Talent avec Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Recherche Talent, l'émission où ce sont les patrons qui passent les entretiens d'embauche. Et aujourd'hui, c'est un défi lancé à François Daligny. Bonjour, vous êtes le président de GPF, Gaz Pur et Fluide. On va parler industrie, vous êtes en gros un concurrent d'Air Liquide, mais vous allez nous expliquer tout ce que vous faites dans un instant. Mais d'abord, nos trois étudiants ont fait connaissance.
Bonjour, je m'appelle Alexis Lengras, j'ai 21 ans et je suis actuellement en deuxième année à l'ESTP Paris. En parallèle de mes études, je me suis engagé dans la junior entreprise de mon école, tout d'abord en tant que chargé d'affaires, puis actuellement en tant que président. Aujourd'hui, c'est pour moi l'occasion unique de rencontrer le groupe GPF et de comprendre l'impact qu'ils ont auprès des établissements de santé, et surtout de comprendre les valeurs fortes sur lesquelles ils s'appuient pour avancer dans leur travail.
Bonjour, alors je me présente, je m'appelle Clara, j'ai 23 ans et je suis en dernière année d'école d'ingénieur, donc à l'ENIM, École Nationale d'Ingénieurs de Metz. Je suis dans l'option management comportemental de la sécurité, et étant très intéressée par tout ce qui est humain et sociétal, je suis également responsable RSE de la Junior Initiative de l'ENIM, donc ENIM Études. L'humain étant vraiment quelque chose qui m'intéresse et ayant vraiment envie un petit peu d'aider les autres, GPF est une entreprise que je trouve hyper intéressante puisqu'elle est très axée sur le côté médical. Et c'est pourquoi j'ai hâte d'échanger avec le directeur de cette entreprise pour découvrir les coulisses de ce monde.
Bonjour, je suis Ilyes Sampaio-Fernandez, étudiant en CSA au sein de l'UEPARIES, mais également président de sa jeune entreprise et vice au conseil. Pour moi, GPF est une entreprise qui a des valeurs qui me tiennent particulièrement à cœur, notamment l'innovation et l'adaptation. Deux valeurs importantes dans un monde en perpétuel mouvement et en constante transformation. C'est pour cette raison que je pense que les entreprises semblables à GPF dans le même secteur que ces dernières se doivent d'ancrer au sein de leur culture ces deux valeurs pour pouvoir prospérer et assurer leur futur.
Bonjour à tous les trois, Alexis, Clara et Ilyes, merci de venir aujourd'hui dans Recherche Talent. Vous allez faire face à François Daligny. Avant que vous nous expliquiez GPF, ce que vous faites exactement, qui connaissait en vrai GPF avant de le mettre sur Internet?
Non.
Soyez honnête, aucun non, des trois. Non. Voilà ce qu'il faut faire, les convaincre. C'est pas facile votre défi, parce qu'il faut expliquer déjà complètement ce que fait votre entreprise. Alors François, vous faites quoi chez GPF?
Alors GPF, c'est une entreprise qui a bientôt 50 ans et qui s'occupe depuis sa création de réseaux de fluides médicaux. Donc de façon très visuelle, c'est les prises qu'on a au-dessus des lits dans les hôpitaux sur lesquels on branche les respirateurs. Et nous, on s'occupe de tout le cheminement qui vient avant, évidemment, depuis la partie production de gaz médicaux jusqu'aux prises au-dessus des lits des patients.
Pour ceux qui nous écoutent à la radio, vous, vous êtes en polo et en doudoune face à des étudiants qui sont en costard-cravate. C'est désormais pas cravate, c'est pas vrai, vous n'avez pas de cravate. Mais vous êtes quand même en costume, vous êtes très chic, c'est ça le nouveau monde dans lequel on est. Les patrons sont détendus et les étudiants sont stressés. C'est un petit peu ça, désormais. Recherche talent. En gros, vous êtes un concurrent d'Air Liquide.
On n'est pas vraiment en concurrence dans le sens où leur métier principal, c'est la fourniture du gaz et que nous, on ne fournit pas le gaz. On s'occupe de l'infrastructure. On est vraiment les plombiers de l'hôpital, mais spécialisés sur la partie médicale. Donc, il y a aussi des plombiers à l'hôpital qui s'occupent de l'eau chaude et de l'eau froide. Nous, on s'occupe que de l'oxygène, de l'air et du vide et des autres gaz médicaux, mais uniquement du tuyau. Et donc, Air Liquide, à l'inverse, eux, ils font pour une toute petite partie de leur activité la gestion des tuyaux, mais surtout, leur gros business, c'est la fourniture du gaz.
Bon, c'est la semaine de l'industrie cette semaine. Donc, on vous a mis deux ingénieurs face à vous. On commence avec vous, Alexis. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à François Daligny?
Alors moi, la première question que je me suis posée en me renseignant sur GPF, c'est donc vous quand même vous participez au maintien de la vie de milliers de patients. Quels sont les dispositifs que vous mettez en œuvre vis-à-vis de la télésurveillance et surtout vis-à-vis, on peut voir qu'il y a beaucoup de cyberattaques maintenant dans les différents hôpitaux. Quelles sont vos actions justement pour permettre toujours un maintien de toutes vos infrastructures et de toutes vos installations dans les hôpitaux?
On peut faire des cyberattaques sur les tuyaux?
Pas vraiment aujourd'hui, parce que c'est des dispositifs médicaux et donc ils sont quand même assez protégés. Nous-mêmes, sur une partie de l'accès à distance sur les équipements de surveillance, on a des accès en lecture éventuelle, mais pas en écriture. Donc ça veut dire que par exemple, à distance, on ne peut pas agir sur une machine. Ça, c'est protégé par le fabricant du matériel de surveillance. Donc nous, notre problème numéro un, c'est moins les problématiques de cybersécurité que les problématiques mécaniques, parce que les machines, ça tombe en panne. Donc on a une télésurveillance qui nous sert surtout à surveiller que les machines sont fonctionnelles. Les normes imposent aux hôpitaux d'avoir trois sources de production, donc on a quand même de la redondance et donc on a le temps d'intervenir, mais on a quand même un service d'astreinte qui est disponible 24 heures sur 24 pour pouvoir intervenir sur tous les établissements qu'on a sous contrat.
Clara, vous, le médical, ça vous parle au départ, c'est un secteur qui vous intéresse. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à François Daligny?
Donc ouais, une question, c'était plutôt, un jeune diplômé ingénieur qui va arriver donc dans votre entreprise. Enfin, ce qui était hyper intéressant aussi, je trouvais, c'est que c'était une entreprise à taille humaine finalement très familiale. Donc je suppose avec des missions très variées. Et donc ma question un petit peu, c'était quelles étaient les perspectives d'évolution pour un jeune diplômé qui arrivait dans votre entreprise?
Eh bien, on en a accueilli un en septembre dernier, donc on lui a construit un programme sur mesure. Ça, c'est, je pense, la force des PME de pouvoir adapter vraiment les choses en fonction de la personne. Donc il va commencer par faire plusieurs mois sur chacun des métiers de façon à pouvoir apprendre de quoi il s'agit techniquement, à la fois l'installation, l'entretien des réseaux, l'entretien des centrales de production, maîtriser les différents sujets et ensuite se projeter sur des fonctions d'ingénieur d'affaires. Ça, c'est en ce qui concerne son parcours à lui, ce qu'on a construit. On a aussi beaucoup de sujets sur l'innovation où on a pas mal de projets en attente de pilotes. Et donc, on est en attente d'ingénieurs ou de personnes compétentes pour pouvoir se saisir de ces projets et les développer. Donc, les perspectives en termes de progression et d'évolution sont assez variées parce qu'on a des métiers assez différents. Et donc, tous ces sujets sont accessibles à ceux qui veulent construire leur chemin un peu comme des briques et un peu comme sur une troisième année d'école de commerce ou d'ingénieur où, en général, on construit ça à sa mesure.
Combien vous êtes salarié aujourd'hui?
On a 35 personnes.
Ouais, donc petite PME à taille humaine. Ilyes, vous avez plutôt un profil compta, contrôle de gestion, audit. Qu'est-ce que vous avez envie de demander à François Daligny?
Pour ma part, c'était pour rebondir sur la question, c'est-à-dire que CPF est une entreprise à taille humaine. Du coup, elle se revendique avec une culture d'entreprise à taille humaine, mais cependant, elle a aussi accès à l'international, elle cherche à se développer. Du coup, comment est-ce que vous maintenez cette culture d'entreprise à taille humaine tout en maintenant un certain développement de la structure?
Alors, le développement de la structure, il se fait de façon assez raisonnée. Donc, en ce qui concerne nos embauches, par exemple, j'anticipe une possible question sur des objectifs chiffrés. On n'a pas d'objectifs chiffrés. On est sur un métier assez exigeant, avec une forte disponibilité. C'est lié au fait qu'on est dans le médical. On est obligé de viser l'excellence. On n'a donc pas beaucoup le droit à l'erreur. Et donc, ça implique de recruter avec parcimonie des gens qui ont vraiment saisi la mesure de nos enjeux et qu'on va ensuite former sur le terrain, accompagner, parce que tant du point de vue comportemental que du point de vue technique, comportemental, par exemple, nos techniciens d'entretien, ils passent dans toutes les chambres de l'hôpital et donc ils doivent savoir s'adresser aussi bien à des patients fragilisés que aux cadres techniques, aux médecins, aux infirmières. Et donc, il y a quand même un monde sur lequel la plupart des gens ne sont pas forcément familiers. Donc, on avance avec la vitesse qui est la nôtre et donc on onboard les gens au fur et à mesure et surtout sur des profils plus que sur des compétences.
Oui, mais attention, parce que Ilyes, il veut savoir s'il va aller pouvoir bosser grâce à vous en Italie, aux États-Unis, et la PME, c'est pas a priori ce qui va l'envoyer à travers la planète.
Alors,
ça peut être un hic dans le recrutement.
Pas a priori. Alors, en ce qui concerne GPF, c'est pas le bon exemple parce que donc on a bientôt 50 ans. En 50 ans, on a travaillé sur quasiment tous les continents, dans 25 pays. Ça s'est fait au fil de l'eau. Dans les dernières années, avec la crise du Covid, on a eu beaucoup de travail en France et donc on a un peu relâché cette tension-là. Mais c'est quelque chose qu'on conserve comme opportunité de développement pour nos collaborateurs et comme opportunité de pérennisation.
C'est au fil du contrat, quoi. C'est-à-dire que si vous avez un contrat avec un hôpital dans un pays étranger, potentiellement, oui, vous allez pouvoir envoyer Ilyes.
Exactement. Après, nous, on a un œil attentif sur ces sujets-là parce qu'on sait aussi que ça participe à notre renforcement de pouvoir ne pas dépendre que d'un seul pays et d'avoir d'autres activités à côté.
Alexis.
Alors moi, ma deuxième question, ça porterait plutôt d'un point de vue personnel. Est-ce que vous vous endormez le soir en vous disant « je participe à la vie et au maintien de la vie de milliers de patients » ou est-ce que je réalise d'abord un geste technique plutôt ingénieur?
C'est une bonne question, ça, hein.
C'est une bonne question, mais la réponse, elle est assez évidente. Nous, nos techniciens et nos installateurs, ils sont dans les hôpitaux tous les jours. On a à peu près 200 hôpitaux sous contrat. On travaille dans 400 hôpitaux entre l'Île-de-France, les Hauts-de-France et la région Rhône-Alpes, de façon élargie. Donc nos techniciens, évidemment, ils sont d'abord et avant tout conscients des enjeux médicaux de leur travail. Et donc, c'est ça qui les anime aujourd'hui. Et c'est ce sur quoi on appuie, évidemment, le plus possible.
Mais c'est votre question, elle est super intéressante parce que c'est là où c'est compliqué, parce que les ingénieurs, pour en fréquenter quelques-uns, c'est pas toujours quand même leur fort sur l'humain. Vous dites, vous allez dans les chambres d'hôpitaux, vous parlez à tout le monde. Il y a une vraie dimension contact humain, aimer l'humain dans vos métiers, ce qui est pas toujours compatible avec une grande expertise technique.
Non, mais ce que je trouve intéressant dans notre activité, c'est justement ce côté hybride entre du BTP avec, du coup, une vision très technique, projet, opération, ingénieur, avec des notes de calcul, avec un bureau d'études en interne, avec un certain nombre de choses qui sont vraiment très typiques d'une boîte d'ingénieurs. et en même temps le tout appliqué au médical. Donc c'est un monde vraiment hybride où on peut à la fois trouver le sens, un sens supérieur à celui de construire des HLM, parce que c'est les hôpitaux, parce qu'il y a des patients, parce qu'il y a des enjeux derrière. On a des équipes qui travaillent tous les week-ends, évidemment, parce que les machines, elles ne s'arrêtent pas, les patients ont besoin d'oxygène tous les week-ends. Et en même temps, ça reste une PME familiale qui travaille en mode projet avec du BTP. Donc c'est accessible à des gens qui ont des profils très techniques. Simplement, ce qu'on apporte en plus, par rapport à beaucoup de sociétés de la taille de la nôtre qui ne vont pas être dans le médical, c'est ce regain d'âme supplémentaire où on sait très bien tous les soirs pourquoi on se couche.
Oui.
Donc les deux, mon capitaine.
Très bien.
Clara.
J'avais une autre question. Je crois qu'en tant que junior entrepreneur, ce qui était hyper intéressant, c'est tout ce qui est côté challengeant, etc. Et du coup, ma question, c'était dans votre entreprise, actuellement, quel est votre plus gros challenge et quel va être le rôle finalement de l'ingénieur pour vous épauler dans ce challenge-là?
Eh bien, le plus gros challenge du moment, c'est le recrutement.
Ouais, ça tombe bien.
Ça tombe bien et je pense que ça...
Sans avoir chiffré, commencez par chiffrer, non? Combien vous cherchez de gens?
Eh bien, nous, on est 35, donc on ne cherche pas 600 personnes. Mais
non, pas de 35, si vous en cherchez déjà 5, c'est déjà pas mal.
On a au moins 5 places chez nous disponibles à tout moment, ouvertes. Et encore une fois, donc c'est vraiment du recrutement opportuniste. On a, au fil des rencontres, on fait des propositions aux gens en fonction de ce qui les intéresse, de ce qui les anime. Encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est des gens qui ont compris la mesure de l'exigence et qui sont prêts à s'investir à proportion. Après, la récompense, elle vient en suivant parce qu'on forme les gens et on propose des schémas de carrière qui sont assez personnalisés. Mais sur le côté ingénieur, il y a tout un tas de projets que j'ai mentionné tout à l'heure rapidement sur la partie innovation qui est vraiment au cœur du développement de l'entreprise. On a par exemple, on parlait des télésurveillances en première question avec Alexis. Les télésurveillances, on est la seule société équivalente à la nôtre à avoir développé une solution en interne. Ça a été fait il y a une dizaine d'années. Par rapport à la problématique de la cybersécurité, d'ailleurs, c'est une problématique sur laquelle on travaille en ce moment parce que on est en train de passer du filaire au sans fil. Aujourd'hui, les lignes filaires, elles sont plus entretenues, donc elles sont de plus en plus mises à l'écart. Et donc, nous, il faut qu'on travaille sur ces sujets-là. Et il y a tout un tas d'autres sujets connexes, soit sur la télésurveillance, soit sur d'autres sujets sur lesquels on a besoin d'avoir des pilotes avec des compétences transverses. Et pour moi, le profil type, enfin, la compétence numéro un de l'ingénieur, c'est la question de l'optimisation. Et ça, je pense que c'est un sujet sur lequel la PME dans l'ensemble en France mesure pas assez ce que peut apporter quelqu'un qui a été formé pour réfléchir optimisation.
Mais la question de Clara, François, elle est presque, elle va pas faire une psychothérapie, mais elle est presque personnelle. C'est-à-dire que vous, cette boîte, c'est pas vous qui l'avez créée, fortiori puisqu'elle existe depuis 50 ans. Où est-ce que vous voulez l'emmener, vous, en tant que patron désormais de cette boîte? C'est quoi votre challenge personnel, quoi?
Alors le challenge personnel, c'est de développer tous ces projets annexes qu'on a un peu sous le coude parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui focalisé sur nos opérations du moment et parce qu'on a la chance d'avoir sans équipe commerciale une activité qui se développe très bien. Ça, c'est entre autres lié à notre réputation et à notre expertise reconnue. Mais on a tout un tas de projets qu'on n'a pas le temps de développer et qui sont pour moi fondamentaux dans la pérennisation de l'activité, en allant chercher d'autres activités et en renforçant notre présence dans les hôpitaux. La vision aujourd'hui qu'on a, c'est de dire on est des spécialistes des fluides médicaux, ça vient avec un certain nombre de connaissances du monde médical, une réputation et une maîtrise des normes médicales. Autour de ça, comment est-ce qu'on peut construire un projet qui soit un peu plus résilient, c'est-à-dire pas forcément dépendre que des chantiers, mais aussi avoir d'autres activités connexes et au fil du temps, renforcer notre emprise dans les hôpitaux pour être, nous, collectivement plus forts, offrir plus de possibilités de développement technique et personnel aux salariés et renforcer avec les années la société.
Yes, avant de partir travailler partout dans le monde.
C'est ça. GPF étant une PME dans des secteurs à risque comme la cybersécurité, la santé, où il y a un fort risque juridique, je me demandais comment est-ce que vous gériez ce risque? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait une sorte de veille juridique qui était mise en place en interne?
Il n'y a pas une veille juridique en tant que telle. On a des, on a des partenaires juridiques sur lesquels, enfin, qu'on consulte sur nos problématiques. Mais par contre, nos engagements normatifs sur la qualité réglementaire font qu'on a des systèmes de veille plutôt sur la partie réglementaire. Donc ça, on surveille régulièrement. Et sur la partie juridique, on fait appel aux compétences. Dans la plupart des PME...
Vous n'avez pas de service juridique interne qui gère votre risque? Parce qu'il a raison, vous avez un risque potentiellement... Avec les patients, si ça marche pas, si
il va se passer. On préfère travailler le sujet en amont et renforcer notre équipe d'astreinte, par exemple, nos compétences techniques pour que les sujets éventuels soient traités au moment où on en a besoin sur le terrain. Après, encore une fois, on a la particularité d'être dans un système où il y a plusieurs sources de production Et donc, on est rarement pris en défaut parce que le système se veut suffisamment résilient pour que même s'il y a des embouteillages et qu'on arrive, non pas au bout de 2 heures, mais au bout de 2 heures et demie, il n'y ait pas de vie de patient qui soit mise en cause. Alors évidemment, ça peut arriver qu'on soit passé pas très loin d'un problème sérieux, mais jusqu'ici, en tout cas, ça n'a pas été le cas et on a réussi à traiter opérationnellement sans avoir besoin de faire appel à des avocats.
Vous allez rechercher des talents, donc, avec des compétences techniques, plus des compétences humaines. Est-ce que vous arrivez, sur la question du salaire, à être globalement au niveau de la concurrence, même si parfois les boîtes sont beaucoup plus grosses ?
Alors, les boîtes sont plus grosses. En ce qui nous concerne, en ce qui concerne nos concurrents, oui, il y en a un seul, vous l'avez cité tout à l'heure, oui, essentiellement le plus gros. Après, sur notre métier à nous, on appelle ça les fluidistes, on est vraiment un écosystème où il y a plus des PME, on fait partie des plus gros, des petits. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'on a plutôt les atouts d'un plus gros, entre guillemets, par rapport à notre écosystème. On fait appel à des cabinets de chasseurs de tête, donc, qui nous remettent les choses au clair sur les attentes salariales équivalentes. Donc, je pense qu'on est dans le marché aujourd'hui. Et puis, on offre aussi on essaie de s'aligner sur ce que proposent des grands groupes en termes de CSE, en termes d'avantages divers et variés. Pour la plupart de nos collaborateurs, ils ont un véhicule de service ou de fonction. Donc, je pense qu'on a un package qui, globalement, est assez attractif. Après, la force d'une PME, c'est il faut être aligné évidemment sur un minimum sur les questions salariales. Mais les statistiques récurrentes montrent que c'est plutôt le quatrième point le plus important dans les attentes des collaborateurs et que le vrai sujet, il est plutôt l'environnement de travail et la question notamment du sens. Et je pense que là-dessus, on a des choses à apporter.
Je sais, c'est pour ça que c'est moi qui pose toujours la question à la fin. François, vous allez rejoindre la régie. On va débriefer avec nos 3 étudiants pour savoir s'ils ont envie de devenir fluidistes.
Recherche talent sur BFM Business.
Alexis, Clara et Iliès, GPF, vous ne connaissiez pas il y a 2 jours, soyons honnêtes, moi non plus. Est-ce que vous avez été convaincu ? Est-ce que vous avez envie, Alexis, de rejoindre et de devenir fluidiste ?
Alors moi, ce qui m'a convaincu particulièrement, c'est quand il a évoqué le terme hybride, et qui me parle beaucoup, surtout dans le BTP, où on est un monde qui est en pleine évolution et on voit beaucoup que le digital arrive. Et là, hybride, il l'a utilisé dans un sens de valeur. Et je trouve ça hyper agréable de nos jours d'avoir le terme hybride aussi qui est utilisé avec le côté humain. Un côté où on est à la fois technique et à la fois on a une expertise d'ingénieur et on va la mettre au service d'une vraie cause qui est de sauver la vie de milliers de patients.
Mais on voit qu'on est en concurrence avec le BTP, hein, parce que très vite on dit c'est faites ça ou travaillez sur exactement le logement social ou la construction classique. On voit tout à fait la concurrence. Hein. Et ça match, ça vous parle.
Oui, et ça match carrément.
De votre côté, Clara, est-ce que vous avez été convaincue par François Daligny ?
Alors oui, ce que je trouvais vraiment hyper intéressant, justement dans le côté PME, c'est que c'est une entreprise qui reste à taille humaine, donc on a le côté terrain, comme disait Alexis, qui est hyper intéressant, où on va toucher les choses, etc. Il y a le côté humain aussi, où l'objectif il est hyper intéressant, très dans le médical, etc.
Vous dites pas c'est trop petit, presque, parce que c'est 35 personnes, c'est pas une grosse PME, c'est à côté d'Air Liquide, c'est sûr que ça va pas être la même chose. Non, ça vous branche.
Oui, parce que justement, je me dis le fait que ce soit taille humaine, ça permet aussi de mieux connaître les personnes et d'être plus proche des gens qui travaillent.
Vous, sur le côté technique plus médical, ça vous parle tout de suite ?
Oui.
Cette dimension humain, il va falloir à la fois être très précis, à la fois discuter avec les patients, parler avec potentiellement les infirmières. Enfin, il y a vraiment un contact humain.
Oui, et puis je pense que c'est hyper intéressant. Je pense que ça matche bien avec le côté technique, justement, de parler, d'échanger autour de ce sujet-là.
Iliès, vous qui voulez aller autour du monde, c'est pas ce que vous allez faire avec GPF, franchement. Enfin, à moins qu'il y ait un contrat, mais globalement, c'est pas la boîte qui va vous faire le tour du monde. Est-ce que ça, c'est un problème ?
Pas spécialement, mais après, j'ai vu que GPF est dans un secteur qui est en mouvement, qui est en devenir. Et même, j'ai aussi fait mes devoirs en voyant un petit peu les comptes annuels de GPF.
Ah, carrément, vous êtes allé lire les comptes. D'accord, très bien, qu'est-ce que vous avez vu ?
Et pour le coup, j'ai trouvé ça hyper intéressant que malgré le fait que ce soit une petite PME, elle a réussi à faire face à des grands comme Air Liquide. Et honnêtement, je pense que c'est un excellent atout à mettre en avant pour éventuellement nous recruter.
Alors vous êtes dans l'audit, vous allez regarder les comptes, mais est-ce que vous vous dites je pourrais bosser dans une boîte comme GPF quelques temps et après rejoindre une autre boîte, ça pourrait être une première étape ou même pas ou...
Ça pourrait être un investissement, travailler à GPF et participer à son évolution et à sa croissance, ça pourrait être une bonne opportunité, je pense, à titre personnel.
Valentin. Alexis Valentin, c'était la mission d'avant. Okay. Alexis, vous le faites que ça soit une PME et qu'on n'ait pas peut-être ce réseau que peuvent avoir d'autres boîtes gigantesques, ça ne vous pose pas problème? Vous voyez comment? Comme une étape ou...
Comme un challenge. Je le vois comme un challenge de me dire, je pourrais intégrer potentiellement un grand groupe, mais là, je vais être plus proche de mes collaborateurs et je pense que la prise d'initiative, c'est un peu un stéréotype du grand groupe, que la prise d'initiative est moindre. Et alors que dans une PME, on peut être plus proche de nos collaborateurs. Et je pense que c'est d'autant plus vrai quand on est une entreprise à mission, limite, qui a envie...
C'est une bonne question, je vais demander après.
Une entreprise à mission, genre, qui a envie de faire avancer les choses. Je pense que ce serait un challenge, et pourquoi pas... Après, il faudrait avoir de nombreuses compétences. Commencer là-dedans, je pense que ça peut être un peu compliqué de se faire la main. Nous, ce qu'on nous préconise souvent, c'est de commencer dans un grand groupe pour découvrir... plusieurs horizons, et ensuite de spécialiser dans une PME et de les accompagner et de les faire...
Ouais, mais on vous dit aussi d'aller dans les cabinets de conseil. Exactement. D'abord, on dit aussi beaucoup de bêtises. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va débriefer avec François pour savoir si lui aussi, si vous aussi, vous l'avez convaincu.
Recherche talent sur BFM Business.
François Daligny, le président de Gaz Pur et Fluide, GPF, vous étiez face à nos trois étudiants. Ils se sont demandé si vous étiez entreprise à mission. Oui ou non?
Alors non, pas encore, mais c'est un sujet qu'on regarde d'assez près. D'une part, parce qu'en fait, comme pas mal de PME, en tout cas nous, on le fait depuis très longtemps, un certain nombre de sujets qui sont aujourd'hui à la mode, tout ce qu'on appelle le réemploi, le fait d'être très, très inséré dans notre tissu local, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps. Et donc on essaye aujourd'hui de le mettre en avant un peu plus, parce que notamment sur les marchés publics, c'est quelque chose qui est un peu plus mesuré et qui rentre un peu plus en ligne de compte qu'avant dans les notes. Et donc, comme on est très à l'aise sur ces sujets, parce qu'on est très sincère, on le fait depuis très longtemps, et ben on essaie de le mettre en avant un peu plus, et on a bien identifié que l'étape d'après, ça pouvait être l'entreprise à mission.
C'est pas une surprise, mais votre côté PME 35 personnes, c'est un point fort comme un point faible. C'est-à-dire que vous avez cette proximité potentiellement avec les gens que vous allez recruter, et en même temps, pour les envoyer faire le tour du monde, c'est pas exactement votre core business, c'est pas des déploiements de carrière internationaux. Comment vous arrivez à gérer ça?
Ben aujourd'hui, je dirais que la force d'une PME, c'est l'agilité. Et donc, on est en mesure d'être très rapide dans les prises de décision. On a les moyens financiers aujourd'hui de se permettre d'investir pour des projets qui ne vont pas forcément rapporter tout de suite. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui vient me dire « moi, ça m'intéresse de partir à l'étranger », je lui dirais « monte-moi le projet en interne et on t'accompagne ».
Ah oui, donc...
Donc aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de noms de principe chez nous. On a plusieurs collaborateurs qui nous ont déjà fait des appels du pied en disant « moi, j'ai envie de réfléchir à tel projet ou telle mobilité ». Ma réponse, ça a toujours été de dire « voyons de quelle façon est-ce que GPF peut t'accompagner sur cette nouvelle étape ». Et on verra bien, je dirais que c'est à moi de construire le programme, le projet avec la personne, c'est à moi de lui proposer les choses. Moi, j'attends que les gens viennent m'exposer leurs envies et après, il faut qu'ils fassent un peu leur boulot et donc qu'ils travaillent leur projet de façon professionnelle. Mais moi, je peux les accompagner là-dessus pour les aider.
Votre point fort, on le voit, hein, c'est humain plus technique. L'argument médical fonctionne très bien, notamment sur ce secteur. Quand vous leur dites dans le BTP, là vous avez un vrai sens, vous êtes en plus dans les hôpitaux, ça fonctionne, ça match.
Ouais.
Mais est-ce que vous arrivez à trouver ces profils-là? C'est quand même plus que la perle rare, là.
C'est un peu compliqué parce que la contrainte qui vient avec, hein, c'est comme toute entreprise qui travaille en itinérance, c'est que il faut bouger partout, il faut être assez agile dans son organisation personnelle parce que on travaille par exemple la nuit parfois quand on fait une intervention sur une centrale de production, on va faire une coupure de l'hôpital, donc évidemment on va choisir les moments où l'hôpital est un peu moins débordé et donc on travaille régulièrement en horaire décalé, nos équipes, nos chargés d'affaires, nos responsables de projet. On vit avec cette agilité au cœur depuis toujours, donc il faut accepter cette contrainte-là, il faut accepter d'être vraiment au service du client. Alors encore une fois, l'enjeu derrière, on sait très bien pourquoi on le fait, et c'est toujours assez gratifiant, mais pour autant, on ne va pas se voiler la face, c'est des vraies contraintes.
Merci beaucoup François Daligny d'avoir été avec nous dans Recherche Talent. Si vous recrutez 5 personnes, vous en avez déjà amené 3, donc on a déjà quand même vachement avancé sur
Merci
le
beaucoup,
projet
Laure.
De recrutement. Nous, on se retrouve la semaine prochaine si vous voulez participer à l'émission. Vous nous envoyez un mail avec vous, @bfmbusiness.fr, ça marche surtout pour les étudiants. On se retrouve la semaine prochaine.
Recherche talent sur BFM Business.